Bonjour, bienvenue à tous.
Bienvenue.
On va vous parler aujourd'hui de Windows Phone 8. On va vous introduire un petit peu au développement. On a 45 minutes pour ça, c'est un peu un challenge. Donc le but, ça va être de vous donner sur tous les pointeurs pour comprendre tous les concepts autour de la plateforme, essayer de voilà, faire un tour d'horizon et en tout cas vous donner les bons liens pour débuter le développement.
Que vous soyez en tout cas débutant, initié, ce sera l'occasion de pouvoir faire un point sur l'écosystème de Microsoft et l'ensemble des outils et des bonnes pratiques mises à votre disposition pour développer votre produit.
Exactement. Alors ensemble, on fait un petit peu les présentations. David, je t'en prie.
Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, tous presque, je suis David Poulain, je suis expert en .NET. Suite à cette session, on s'était entré en contact, vous pouvez utiliser mon alias Twitter, DaPoulainPro. Alors, je suis passionné de développement mobile et bien d'autres encore, et pour le plaisir, ça m'arrive de développer quelques petites applications qu'on a juste mis là. Alors, je suis pas seul et j'ai mon acolyte, Cyril, avec moi.
Donc voilà, Cyril Catala, expert .NET, je suis également MVP sur C#. Vous avez mon Twitter et quelques petites applications que j'ai développées. On travaille tous les deux chez SOAT. Donc SOAT, en deux mots, on travaille particulièrement dans un département qu'on appelle expertise et innovation. Donc ça nous donne des petites tâches assez sympathiques, comme de la veille technologique. On fait aussi de l'accompagnement technique, des formations, de l'audit, réalisation de proof of concept et aussi beaucoup de forfaits Windows 8, Windows Phone, ce qui nous amène justement à parler de Windows Phone aujourd'hui.
Alors, qu'allons-nous voir ? Nous allons vraiment survoler tout l'univers de Microsoft et revenir un peu sur les fondamentaux et sur les bonnes pratiques à suivre pour développer une application Windows Phone jusqu'à sa publication et puis voir un peu tous les outils mis à notre disposition. Commence ?
Allez.
Très bien. Alors, Windows Phone. Aujourd'hui, beaucoup de questions sont posées de la part des investisseurs, des décideurs. Quels sont les marchés supportés par Windows Phone ? Aujourd'hui, plus de 190 pays sont supportés par Windows Phone. 190 pays qui représentent à peu près un peu plus de 50 langues. 50 langues, c'est un avantage si vous les parlez toutes, pour pouvoir cibler le maximum de personnes. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça représente un petit peu quoi en part de marché ? Il y a à peu près 2 ans, on n'était pas aussi haut et on voit qu'aujourd'hui, en Europe, on dépasse un peu plus de 10% de part de marché. Et rien qu'en France, 12%. Alors, je ne citerai pas les chiffres de la concurrence, mais il est clair qu'en tout cas, il y a une nette augmentation sur les ventes de smartphones Windows Phone aujourd'hui. On verra pourquoi, mais Microsoft met en place un certain nombre de méthodes de pratique qui permettent de pouvoir vraiment cibler le maximum de personnes. Alors, 12% en France et un peu plus de 200 000 applications. Et bientôt les vôtres, j'espère. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Microsoft a su intéresser le maximum de personnes en proposant une large gamme de devices. On connaissait beaucoup tous ceux qui avaient des résolutions WXGA ou alors 720p. Et très récemment, Microsoft, ou plutôt Nokia, propose de nouveaux genres de téléphones avec une autre résolution, 1080p. Le Lumia 1520, pour ceux qui s'intéressent. Alors, comment commence le développement Windows Phone ? Il y a un point d'entrée qui est essentiel et que beaucoup ont tendance à oublier et qu'on aime rappeler, c'est le portail, le Dev Center. Le Dev Center, c'est un portail qui est vraiment incontournable, dans la mesure où il recense toutes les ressources nécessaires pour développer vos applications. Mais quand on dit toutes, c'est vraiment toutes. Que ce soit des ressources liées au design, au développement, ou alors des exemples, ou l'ensemble des outils et des SDK ou des outils des partenaires mis à votre disposition. Un lien à retenir, dev.windowsphone.com. Comment ce site se présente ? Si vous n'y êtes pas encore allé, il est très simple d'accès. Il vous propose tout en haut un certain nombre de sections. Les deux premières, Design et Develop, sont des sections où vous allez retrouver tous les éléments qui vous permettront de développer votre application, que ce soit pour les ressources graphiques ou les ressources liées au développement. La troisième, Publish, c'est une section qui va beaucoup vous aider pour la publication et connaître un peu tout ce qui se passe lors des certifications, quelles sont les bonnes pratiques aussi, comment faire pour ne pas être calé lors d'une publication. Le lien community, un lien qui est souvent négligé, qui vous oriente vers beaucoup de forums ou alors beaucoup de newsgroup ou de groupes d'utilisateurs ou de développeurs pour chercher des réponses. Et finalement, le lien le plus pratique, le plus utilisé par les développeurs, Dashboard, qui vous permet de retrouver toutes les informations de votre compte, vos applications et bien d'autres encore. Les outils. Alors, pour ceux qui sont développeurs en .NET, vous êtes déjà familier aux outils qui sont mis à votre disposition. Visual Studio 2012, 2013, Ce sont les outils par défaut, par excellence, que vous allez utiliser pour développer vos applications. C'est un avantage d'avoir un seul outil unique pour développer tous vos produits. Mais il en existe d'autres, dont on a parlé ce matin, Blend. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui vous permettra de pouvoir aisément éditer tout l'apparence visuelle de votre application. Non seulement l'apparence visuelle, mais aussi tout l'aspect animation. Ensuite, il y a un outil émulateur qui est fourni avec le Windows Phone SDK, qui embarque pas mal de fonctionnalités importantes si vous ne disposez pas de device. Donc à savoir, et finalement, donc, le Windows Phone SDK, qui vous permettra de pouvoir débloquer votre téléphone, déployer des applications, ou alors utiliser des outils qui vous permettront de les tester au préalable avant de passer les publications, la certification. Les langages, ou quelles compétences? Vous êtes développeur en C# ou VB, pour ceux qui en font toujours. Vous allez pouvoir utiliser le couple C# VB.net avec XAML pour développer vos applications Windows Phone. Il faut savoir que si vous développiez en utilisant WPF ou alors Silverlight, vous allez pouvoir réutiliser justement ces compétences pour développer une application Windows Phone. Donc vous êtes des chanceux et des privilégiés. Si vous êtes développeur C++, DirectX, vous n'êtes pas totalement abandonné, puisque vous allez pouvoir aussi réutiliser vos compétences pour développer certes des applications, mais beaucoup plus orientées jeux ou alors des composants que vous pourrez réutiliser dans votre application Windows Phone. Et pour finir, les développeurs web ne sont pas oubliés dans la mesure où ils vont pouvoir eux aussi utiliser leurs compétences, certes avec une petite limitation. Et effectivement, vous allez pouvoir utiliser créer des applications dites hybrides où vous allez développer votre application HTML5 JavaScript, mais qui sera embarquée dans un composant web browser sur l'application Windows Phone.
Alors c'est là où je te laisse ma place.
Très bien, merci, tu te prépares pour la suite. Place. Alors,
je prends la souris à côté.
Ok, très bien. Pour ceux qui ne sont pas encore vraiment familiers, on a l'éditeur Visual Studio qui nous permet la création de différents types de projets. Et parmi ces types de projets, on retrouve justement les projets de type Windows Phone. Quand vous créez, selon le langage que vous préférez, un projet de type Windows Phone, il y a beaucoup de templates auxquels vous pouvez prêter attention, d'autres non. Parmi ces templates, on retrouve des templates soit de base ou alors des templates qui vous proposent de pouvoir créer... des listes, toutes simples, ou alors des projets de classe librairie si vous souhaitez créer des composants pour vos applications Windows Phone ou d'autres. Voilà. Je vais créer simplement un projet tout simple, PhoneApp 3, juste pour que vous puissiez voir un peu l'outil. Très bien, ça charge. Ok, alors, comment ça se passe quand vous utilisez, quand vous créez un nouveau projet, vous vous retrouvez face à un éditeur. Alors, pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise avec le code, il y a aussi la possibilité de retrouver le design de votre application. Alors, dès que vous créez une application par défaut, vous retrouvez donc l'aspect design ou l'aspect code. Vous pouvez mélanger les deux, hein. N'ayez pas de soucis, de crainte. Et quand on lance l'émulateur, alors, vous voyez un peu ce qu'on va montrer tout à l'heure. Voilà, vous avez un nouveau projet qui se lance. On parlera un peu plus en long et en large de l'émulateur et de choses à savoir là-dessus. Mais voilà. Un nouveau projet et énormément d'autres choses à dire, mais je propose de continuer et de parler.
Hop, on revient sur les slides.
Des designs.
Pas au début.
Très bien.
Parlons un petit peu design. David en parlait, on a un outil pour faire du design. Mais qu'est-ce que le design sur Windows Phone? C'est un peu particulier pour ceux qui ont déjà un petit peu manié l'interface. Ça suit certains préceptes, certains principes autour du Microsoft Design Language. Donc, c'est une charte visuelle qui a été introduite par Microsoft au moment de Windows Phone. C'est très dans l'air du temps, c'est du flat design, quelque chose d'assez moderne avec peu de dégradés, beaucoup d'aplats, pas de 3D, pas de fioritures entre guillemets. C'est quelque chose qui se veut assez intemporel. Et surtout, ça permet de respecter l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on va avoir le même design, peu importe l'écran sur lequel on se trouve, on garde la même logique. Ça, c'est vraiment important, c'est le respect de l'expérience utilisateur. Derrière tout ça, on a beaucoup de principes, on n'aura clairement pas le temps de tous les voir. Ce que je vous propose, c'est plutôt voir point par point quelques petits principes comme ça, clés, qui permettent de mieux embrasser ce concept. Principe de grille, ça paraît tout bête comme ça, mais ce principe veut qu'on va afficher nos composants graphiques alignés, par exemple sur une grille qu'on peut mettre par-dessus pour s'assurer en fait que les éléments sont bien alignés, que le cerveau arrive à interpréter correctement et très facilement l'interface, la structuration, etc. Beaucoup d'études montrent qu'un design aligné va être mieux interprété par le cerveau, c'est quelque chose qui se comprend plus facilement. Donc au-delà de la beauté de la chose, c'est quelque chose de pratique. Ici, on a un petit exemple aussi d'application. Donc au-delà de la police qui pique un peu les yeux, on ne différencie pas vraiment le contenu important du moins important. On n'a pas vraiment de hiérarchie. Donc là, on va bannir tout ça. On va plutôt faire quelque chose qui va jouer sur la typographie. Donc là, on va jouer sur la taille de la fonte, réellement. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, tout en haut, conversation, donc c'est en anglais, donc c'est tout ce qui va être texto, donc on sait dans quelle rubrique on se retrouve, c'est écrit en gros. On sait quel est le destinataire, c'est les noms aussi écrits en gros. Par un code couleur, tout simplement, on va savoir qu'on a des messages qui sont non lus. Donc c'est vraiment des codes très, très subtils, et on fait venir le contenu avant tout. Il y a vraiment une hiérarchie qui se révèle d'elle-même. Vous voyez, jusqu'ici on avait deux écrans plutôt ternes avec un fond noir, donc c'est un peu le thème par défaut, même si l'utilisateur peut choisir entre le thème clair et le thème foncé. Tout ça, ça n'empêche pas d'avoir sa personnalité, d'intégrer son identité de marque. Là on voit par exemple un petit fond plutôt dans les beiges avec des couleurs sympas, ça tranche un petit peu avec ce qu'on vient de voir.
Donc une application Windows Phone, ce ne sont pas que des carrés alors ?
Ce n'est pas, non, absolument pas. Donc là, un autre exemple par exemple avec le New York Times qui inclut sa typo en titre. Donc clairement c'est leur identité, donc pourquoi l'abandonner ? Pour Windows Phone, ce serait un peu bête. On voit aussi une couleur qui prédomine, donc le beige en fond, le rouge en couleur d'accentuation. Donc c'est vraiment, faut vraiment pas hésiter à inclure toutes ces données-là. Dernier exemple, mais pas des moindres, justement l'interface de feu Windows Mobile, l'ancêtre de Windows Phone, on peut l'appeler comme ça. Donc c'est assez chargé, finalement il y a beaucoup de contenu, des icônes un peu dans tous les sens, des dégradés. Finalement on oublie l'essentiel qui est le contenu. Le contenu, c'est quoi ? C'est typiquement les mails. Donc là, on revient sur l'intitulé des mails, on revient sur l'essentiel, c'est le contenu qui prime avant tout. On évite d'en mettre partout. Et c'est vraiment très important, et ça, c'est vraiment au cœur justement de ce Microsoft Design Language. Donc c'est en suivant ces préceptes-là qu'on arrivera à dégager ce qui intéresse réellement l'utilisateur. Qui dit design dit interface graphique ? La transition est toute faite. Parlons justement de XAML. Donc XAML, c'est le langage qui permet de décrire l'interface sur les technologies Microsoft. C'est XAML pour Extensive Application Markup Language, donc c'est très proche du XML, c'est un langage balisé qui permet de déclarer l'interface. Donc, un petit exemple, à droite on a le XAML, donc assez compact, assez compréhensible, enfin, j'espère en tout cas. Donc, on a un stack panel, donc un composant qui permet d'afficher sous forme de, qui permet d'empiler d'autres composants graphiques, donc en l'occurrence un bouton et un label. À droite on a XAML qui trouve sa correspondance dans le code, donc là en C#, on peut très bien l'écrire directement dans le code sans aucun problème, c'est strictement équivalent. On voit juste que c'est beaucoup plus verbeux dans le code qu'en XAML, d'où l'avantage. Donc ça affiche ça, au final. Bon, c'est pas forcément glorieux. Donc les composants graphiques, c'est un framework complet qui existe depuis un petit bout de temps déjà. Donc David en parlait, on a Silverlight, WPF, qui a été créé à partir de ce framework XAML, framework graphique. Donc ça permet de faire un layout, une disposition assez classique, avec des alignements à gauche, à droite, en haut, en bas, avoir des paddings, des marges, des choses assez classiques qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc surtout c'est vectoriel, donc ça c'est vraiment important par rapport aux autres plateformes par exemple. Donc le design va s'adapter automatiquement si vous faites bien les choses proportionnellement à l'interface. Donc c'est une arborescence visuelle, c'est du XML, donc c'est vraiment un arbre. Si vous déclarez un composant après un autre, c'est le dernier composant donc, qui sera dessus sur le zen index. Donc là il y a une histoire de je mets mes composants les uns par-dessus les autres en fonction de leur déclaration dans le XAML. Et surtout, une notion très importante, c'est que c'est extensible. Si vous avez des boutons par défaut qui sont rectangulaires, c'est plutôt ce qu'on a l'habitude de rencontrer, là, vous n'êtes pas obligé de le garder rectangulaire, vous pouvez très bien faire un rond. Donc là, en fait, vous allez modifier son gabarit, son template. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ce sera encore plus possible via l'outil Blend, qui vient en complément pour faire du design. Et aussi, vous pouvez factoriser les styles, un peu comme on a l'habitude de faire sur le web en CSS. Vous avez un bouton qui, par défaut, a un fond noir. Vous voulez changer pour du rouge. Donc vous commencez à définir un style qui applique ce background, cette couleur de fond à rouge. Vous l'appliquez comme ça à tous vos boutons dans votre application. Et le jour où vous voulez changer, vous voulez passer au vert, vous avez juste un endroit à modifier et sera automatiquement répercuté sur tous vos boutons auxquels seront assignés ce style. Donc ça, c'est tout simplement de la factorisation d'attributs. Ça permet d'avoir des contrôles donc, qui sont personnalisables et réutilisables tout au long de l'application. Les contrôles, parlons-en. Alors rapidement, parce qu'il y en a beaucoup. Les basiques, on va avoir la grid, ça permet d'afficher grosso modo un tableau avec des colonnes et des lignes. Le bouton, je pense que ça parle de soi, ça parle de, enfin, il parle tout seul, je vais y arriver. Textblock, c'est plutôt des labels dans le jargon Microsoft. Des composants plus riches. Donc de la map pour afficher de la cartographie, un web browser pour afficher du contenu web, Media Element pour tout ce qui est audio, vidéo. Les contrôles Windows Phone, on va faire une toute petite démo tout de suite après, donc je vais y revenir. Et un point important, si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi tous les composants de base, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui existent sur Internet, donc notamment le Windows Phone Toolkit qui est développé par Microsoft et qui est complètement open source. C'est-à-dire que vous pouvez le retrouver sur phone.com. .codeplex.com. Et vous avez en fait des composants qui viennent enrichir la bibliothèque, donc notamment un date picker qui permet de sélectionner une date, autocomplete box pour faire d'autocomplétion, des effets de transition, etc. etc. Donc vous n'êtes pas perdu, vous avez vraiment toute cette liste de composants qui est très riche. Et je vais vous montrer plus particulièrement les composants qu'on peut voir sur Windows Phone. Donc si vous ne connaissez pas particulièrement ceux-là, toc. Alors, j'ai perdu mon émulateur, tiens.
C'est ma faute.
Méchant. On va le relancer, ça va prendre une petite seconde. Donc en fait, il y a des contrôles qu'on appelle signatures sur Windows Phone qui sont très particuliers à la plateforme et qu'on voit un peu partout. Donc il y a des préceptes derrière, on ne l'utilise pas non plus n'importe comment. Donc voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, parfait. Donc le panorama, c'est le premier. Donc le panorama, c'est souvent raccroché au principe de couverture. C'est quelque chose qui va donner envie, qui va souvent être lancé en premier dans l'application. Donc vous voyez, en fait, je défile sur les différents écrans de manière assez fluide. Il y a un effet de parallaxe derrière, bah, c'est sympa. Si tout le monde le voit avec le dégradé, ouais. Donc ça, en fait, vous n'avez rien à coder, vous avez juste à définir grosso modo vos panels, vos espèces d'onglets. Le but, c'est de donner envie à l'utilisateur de rentrer dans l'application, de rentrer dans les différentes sections. C'est vraiment un aperçu du contenu de l'application. C'est pas fait pour afficher du contenu riche. Ensuite, on a le pivot. Donc là, c'est plus quand on veut rentrer dans le détail, quand on veut afficher beaucoup de données. Donc là, c'est plus ce qui se raccroche à un concept d'onglet, quelque part. C'est-à-dire que là, vous voyez, je pivote sur un onglet, sur un autre. Et alors là où sur le panorama on avait un aperçu sur le côté du contenu, je reviens dessus, hop. Vous voyez sur la droite, on a un petit aperçu à chaque fois du contenu qui va s'afficher. On ne l'a plus sur le pivot, on l'a uniquement sur le titre. Alors la raison derrière, c'est que du coup, sur le panorama, on a une notion très importante de virtualisation. C'est-à-dire que le panorama, au niveau de l'affichage, tout le panorama va être rendu en mémoire. Ça veut dire qu'en termes de performance, ça peut avoir un impact. Alors que sur le pivot, seul le pivot sur lequel vous êtes est rendu en mémoire. La grosse différence, c'est que du coup, dans le pivot, on va pouvoir afficher beaucoup plus de choses. On n'aura pas à rendre finalement tous les pivots, donc on peut mettre 1000 pivots, par exemple, si on a envie. Alors c'est déconseillé, mais on pourrait. En tout cas, en termes de performance, ça passerait. Le long list selector, c'est peut-être un des contrôles les plus importants aussi. C'est tout simplement pour afficher du contenu sous forme de liste. Sauf que c'est un contrôle très très riche, très très puissant. Donc vous le voyez là, par exemple, j'ai un en-tête, ce qu'on appelle un groupe header. Donc je peux cliquer dessus et avoir directement un raccourci vers les différentes sections de ma liste. Donc là, je peux aller sur le Y directement. C'est vraiment un raccourci, en l'occurrence ça m'évite de scroller dans tous les sens. On a d'autres fonctionnalités, on peut mettre un header, un footer, on peut afficher non pas sous forme de liste mais sous forme de grille. C'est un contrôle vraiment très riche et très important, qui est virtualisé aussi. Donc en termes de performance, on est vraiment au top du top. Et enfin, le dernier contrôle, mais pas des moindres également, hop, c'est l'application bar. Donc ça c'est pareil, si vous avez déjà eu un Windows Phone dans la main, normalement vous l'avez tous rencontré. C'est une petite barre en bas de l'application avec des boutons d'action. Donc vous voyez les deux petits boutons. Là, si je clique sur les trois petits points à droite, je retrouve les libellés des boutons qui jusqu'ici étaient cachés et potentiellement ce qu'on appelle des menus items, donc des menus encore plus cachés en dessous. Donc ça, c'est pareil, c'est un précepte assez classique sur Windows Phone, deux boutons d'action directement sur l'interface. Hop. Je vais passer la main à mon camarade.
Merci, cher Cyril. Quand on travaille, quand on fait du développement mobile, on se retrouve souvent confronté au fait de pouvoir s'intégrer pleinement à la plateforme et mieux la comprendre. Windows Phone est une plateforme qui fonctionne un peu différemment des autres plateformes et sur pas mal de principes, en particulier celui de la navigation. Alors, comment la navigation elle fonctionne ? La navigation sur Windows Phone fonctionne à l'aide d'un conteneur principal. Ce conteneur principal, on l'appelle une frame, en fait. Cette frame, c'est le gestionnaire de navigation. Tout va se passer à l'intérieur de cette frame, que ce soit l'affichage de vos pages ou alors l'affichage de transition. Une page qui va s'afficher à l'intérieur de cette frame, cette page va vous permettre d'afficher du contenu, mais également aura un identifiant unique. Il y a une particularité, un fonctionnement qui est un peu différent des autres plateformes, qui est la pile de navigation. Au fur et à mesure que vous naviguez dans une application Windows Phone, vous avez des objets dans le SDK qui vous permettent de récupérer l'historique de navigation. Donc au fur et à mesure que vous naviguez, vous stockez justement cet historique et vous avez sur tous les Windows Phone un bouton physique qui vous permet de pouvoir naviguer dans cet historique.
En arrière.
Voilà, bien entendu, en arrière uniquement, puisqu'il n'y a pas de bouton avancé. Voilà. Merci. Alors, quoi d'autre ? Comment naviguer en utilisant ces méthodes ? Simplement en utilisant un objet qui s'appelle navigationService.navigate vers une nouvelle page. Donc là, je veux naviguer vers une super page. Et comment ça se passe ? Donc j'ai une super page qui s'affiche avec son contenu, tout simplement.
La magie de PowerPoint.
L'émulateur, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est un outil qui est très utile quand on ne dispose pas de téléphone physique pour tester son application. beaucoup de personnes pensaient que on ne peut pas tout faire avec l'émulateur. C'est vrai, certes, mais on peut faire vraiment beaucoup. Il est bon de le savoir. Pour l'utiliser, il y a quelques prérequis, cependant. Il faut que vous ayez une machine qui ait un certain nombre de prérequis. Tout d'abord, un processeur, SLAT. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez être sûr que vous ne pouvez pas l'avoir. Et bien entendu, une version de Windows 8 Pro ou plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'hyper-V soit activé. Ce sont deux prérequis.
Petite parenthèse, processeur SLAT, c'est grosso modo tous les derniers Core i7, i3, etc. Le support de base. Vous avez tout un test sur, que vous pouvez faire en ligne justement pour savoir si vous êtes compatible ou pas.
Merci.
Petite parenthèse.
Si vous n'avez pas ces prérequis, vous ne pourrez pas tester vous ne pourrez pas lancer l'émulateur et il faudra disposer obligatoirement d'un device, malheureusement. Quelles sont les fonctionnalités de cet émulateur ? Alors, on va pouvoir utiliser toutes les résolutions disponibles. Vous souhaitez utiliser des résolutions supérieures, maintenant tu ne les as pas toutes. vous allez pouvoir switcher entre ces résolutions, mais encore, vous allez pouvoir tester l'accéléromètre. C'est pratique si vous développez des jeux ou des applications qui peuvent l'utiliser. C'est possible de le simuler en tout cas avec l'émulateur. Vous allez pouvoir utiliser la géolocalisation. Plus besoin de prendre l'avion pour tester dans un pays spécifique. Vous pouvez simplement utiliser l'émulateur pour pouvoir tester. Mais également pouvoir prendre des captures d'écran, pouvoir les réutiliser pour la publication ou pour l'envoyer pour des clients. C'était pratique qu'on n'avait pas encore les captures depuis son téléphone. Et dernière fonctionnalité, pas des moindres, c'est la simulation dashboard. Que beaucoup ont tendance à oublier, mais qu'il est nécessaire d'utiliser. Il vous permettra de simuler le trafic réseau et perte de connexion ou alors faible connexion. C'est pratique puisque dans vos applications, tous ne sont pas au même niveau ou ne testent pas dans les mêmes conditions. Voilà.
Absolument.
Les vignettes, ou rendre son application encore plus attractive ?
Alors les vignettes, qu'est-ce que c'est ? C'est bien plus qu'un carré. Donc codé carré. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur l'écran d'accueil du téléphone. C'est une des spécificités, une première spécificité de Windows Phone, c'est qu'on a des vignettes qui bougent en fait, qui vivent. Donc on n'est pas obligé d'avoir une vignette entre guillemets statique, donc juste une icône en raccourci vers l'application. On peut avoir des vignettes qu'on va dire plutôt dynamiques pour afficher du contenu riche. Donc ce que je prends toujours comme exemple, c'est l'application météo qui est assez parlante, c'est-à-dire que vous pouvez épingler une vignette sur votre écran d'accueil qui vous donne directement la météo, par exemple ici de Paris. Donc sans lancer l'application, vous accédez directement à de l'information qui a du sens. Donc ces vignettes peuvent être mises à jour directement dans l'application. Vous pouvez le faire via une routine, par exemple, qui va tourner sur le téléphone toutes les 30 minutes, donc sans forcément avoir à lancer l'application. Vous pouvez le faire à travers des notifications push. Donc, il y a différents, vraiment, beaucoup de moyens à disposition pour mettre à jour ce contenu. Donc on différencie deux types de vignettes. La vignette principale, donc, c'est la vignette de l'application que l'utilisateur va épingler. Relativement classique. Et les vignettes secondaires, ça va être ce qui va être créé à partir de l'application. Donc, encore une fois, sur l'application météo, on va pouvoir épingler une vignette pour Paris, une vignette pour Marseille, une vignette pour Perpignan. On a vraiment le choix et on peut en épingler plusieurs. Là, c'est aussi l'avantage. Et à chaque fois, c'est vraiment un moyen de rentrer dans l'application par différents biais liés à des données. Donc, ces vignettes ont différentes formes, différents gabarits, donc ce qu'on a appelé des templates. Donc, il y a la flip qui va se retourner pour afficher un contenu secondaire. L'iconique, donc c'est quelque chose qui affiche une notification, enfin le nombre de notifications non lues par exemple, donc plutôt un compteur, c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur la tuile mail ou message. Et la cycle, donc là c'est plus une galerie d'images, quelque chose qui va faire défiler jusqu'à 9 images directement, toujours sur la vignette. Je vous propose de voir ça en direct, ce sera beaucoup plus parlant. Hop, alors je vais relancer ma démo, je vais juste recréer mes vignettes. J'avais tout préparé, mais du coup on m'a tué mon émulateur. Méchant.
Voilà. L'esprit d'équipe, cher Cyril.
Tout est sous contrôle. Alors voilà, donc là on a trois tuiles différentes. Donc on a la flip ici, donc je ne l'ai pas précisé, mais on a trois tailles différentes. La petite, la large et la moyenne. Donc ça c'est l'utilisateur qui va décider quelle taille il veut. Vous en fait, vous avez juste en tant que développeur à proposer les trois tailles. Donc on va voir qu'elle se retourne régulièrement, donc ça c'est la flip. On a la cycle ici qui affiche un magnifique petit chaton. Donc ça défile automatiquement, donc pareil, j'ai rien à faire dessus. Et enfin l'iconique, donc pareil, à chaque fois on supporte les trois formats. Hop, tout petit, tout grand, et avec du contenu un petit peu supplémentaire. Donc c'est trois templates sur lesquels on a le choix, on a la main. Donc c'est vous en tant que développeur qui décidez ce que vous voulez afficher. Hop.
Je parlais
un peu plus des spécificités avec David.
Très bien. Donc Cyril, on a parlé de spécificités qui sont propres à la plateforme et qu'il est très intéressant d'utiliser au sein de vos applications. Elles vous permettent de faire la différence et on n'en parlera pas forcément dans cette session, mais d'avoir le maximum de chances de rappeler l'utilisateur pour utiliser votre application. Ne les négligez pas. En parlant des spécificités de l'application du framework ou de la plateforme Windows Phone, il y en a beaucoup. Il faut savoir que les spécificités sont pratiques dans la mesure où elles vous permettent de pouvoir interagir au maximum avec le système. Et il est très important de pouvoir les utiliser. Ne réinventez pas la roue. Sachez que beaucoup de choses peuvent exister pour vous permettre de pouvoir mieux développer votre application. Parmi ces spécificités, on retrouve ce qu'on appelle les launchers. Les launchers, ce sont des contrôles, ou plutôt des méthodes ou des objets, qui vous permettent de passer des données. Par exemple, partager un statut Facebook, sur un réseau social. Pardon, je n'ai pas d'action à Facebook, je suis rassuré. Ou alors d'autres contrôles composants qu'on appelle les chooseurs, qui sont des contrôles qui vont permettre de recevoir des données. Je pense en particulier à l'application photo ou le chooser spécifique à la photo qui permet de prendre une photo et vous allez pouvoir la récupérer et l'utiliser dans votre application. Alors, quelques exemples. Cyril, si je te dis email compose task, ça serait un launcher ou chooser selon toi?
Ça va être quoi pour composer des emails? Je dirais plutôt launcher. J'ai bon?
Très bon.
Suspense, folie.
Oui, il faut. Photo
chooser, je pense qu'on le devine tous. Hein. Ça va permettre de sélectionner une photo, tu en parlais tout à l'heure.
Très bien.
Et web browser, je suis à la colle à toi.
Alors, web browser, d'après toi.
C'est pour afficher du contenu web, donc on va passer une URL, donc ça va être un launcher.
Très bien, puisque tu ne reçois pas de données formidable à récupérer ou à traiter. Voilà.
Exactement. D'autres fonctionnalités?
Alors, concernant les fonctionnalités supplémentaires, on ne les évoquera pas toutes, il y en a vraiment trop, mais les principales plutôt, ou les oubliées qui sont très importantes, il y a l'écran de verrouillage. Vous pouvez créer une application ou qui peut prendre la maîtrise de l'écran de verrouillage et le personnaliser. Alors, dans la personnalisation, vous serez pas très limité, mais vous avez quelques fonctionnalités que vous allez pouvoir personnaliser, à savoir l'écran, déjà, en lui-même. Donc, le fond d'écran, vous allez pouvoir mettre de jolies femmes derrière. Ou alors utiliser... ou alors une icône et des notifications, ou encore un titre. Vous n'allez pas pouvoir changer l'heure ou alors le jour. Ensuite, le NFC, cher Cyril, qui veut dire NFC?
Near Field Communication.
Très bien. Alors?
En français?
Protocole.
Communication de proximité, on va dire.
Voilà, communication de proximité. La quasi-totalité des Windows Phone aujourd'hui supportent le NFC. Quasiment. Vous aurez la possibilité d'utiliser ces fonctionnalités. Comment on pourra l'utiliser? De téléphone à téléphone. Il faut savoir que cette communication demande très proche proximité. Non seulement cela, mais vous serez limité également dans les débits. Donc, si vous souhaitez l'utiliser, il faut prendre conscience des limitations. Voilà. Vous allez pouvoir l'utiliser que ce soit entre téléphone ou téléphone, téléphone avec d'autres appareils qui supportent le NFC, ou alors des téléphones à une petite carte NFC.
Carte de visite, c'est sympa.
Voilà, carte de visite NFC pour ceux qui ont un peu d'argent. Alors, la voix. Fonctionnalité très souvent oubliée, mais très souvent pratique pour l'accessibilité aussi, également. Vous pouvez utiliser que ce soit la reconnaissance vocale, la synthèse vocale ou alors des commandes vocales au sein de votre application. Vous pouvez utiliser certes des commandes vocales qui peuvent exister, mais également implémenter les vôtres pour que votre application ait davantage de plus. Par exemple, je peux créer une application annuaire, tiens, je vais l'appeler page jaune. Je pourrais créer des commandes vocales page jaune. Donne-moi le numéro de Cyril, par exemple. Et ça me répondrait 06, etc.
On va pas aller plus loin.
Voilà.
Hop.
Très bien. Les fils photos. On parle beaucoup d'intégration à l'OS. L'intégration à l'OS, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous pouvez utiliser des fonctionnalités propres de l'OS qui vont permettre de pouvoir retrouver votre application. Alors, dans le cadre de l'application photo, on peut retrouver ce qu'on appelle les filtres photo. Tout en haut, les filtres. Quand vous cliquez sur les filtres, vous pouvez retrouver l'ensemble des applications qui intègrent des fonctionnalités propres à la caméra ou alors à la photo. C'est un avantage pour vous, ça vous permet d'être davantage présent en fait. Vous avez développé une application photo, vous souhaitez indiquer à l'utilisateur que vous êtes présent ou alors que votre application est capable d'interagir avec le contenu que cela produit. Alors vous avez la possibilité de vous intégrer à ce niveau. Ceux qui connaissent très bien la plateforme se rappellent probablement du hub musique ou du hub photo où vous avez la possibilité d'intégrer justement la liste des applications présentes dans ces hubs.
Ouais. Le but, c'est d'avoir votre application présente au bon moment et peu importe où vous vous trouvez dans l'OS, finalement, vous n'êtes pas obligé d'avoir juste une application sur l'écran d'accueil, elle peut apparaître dans le hub photo ou ailleurs. Ça, c'est une des forces aussi de l'OS.
Comment devenir riche?
Comment gagner de l'argent à la masse? Dites donc. Il existe plusieurs modèles de monétisation assez classiques, on va dire, pour le mobile. Vous pouvez disposer d'une application payante avec une version d'essai. Vous avez l'achat dans l'application, donc durable ou consommable, ça va être selon vos modèles. Durable, ça va être quelque chose de type abonnement, donc par exemple un magazine, abonnement sur plusieurs mois. Et consommable sera plutôt de l'ordre d'un jeu, par exemple, où on veut débloquer, je sais pas, 100 pièces. On va pouvoir consommer ces 100 pièces. Plus classique aussi, la publicité. Vous pouvez très bien afficher des bannières de publicité pour vous rémunérer. Microsoft a notamment une régie publicitaire qui marche plutôt bien sur Windows Phone. Et on va essayer de voir ensemble très rapidement des trucs, astuces justement pour essayer de maximiser vos chances pour avoir plein de succès et plein d'argent, on l'espère. Alors, version d'essai, elle n'est pas obligatoire. Par contre, si vous donnez une application, si vous mettez à disposition une application payante, il est très très fortement conseillé de mettre à disposition une version d'essai. Vous avez des taux, en fait, ça va à peu près multiplier de mémoire les chiffres x 70 sur les revenus. C'est-à-dire que les utilisateurs, en soi, ils ne veulent pas acheter une application qu'ils n'ont pas testée. Ça paraît plutôt logique, il faut un petit peu se mettre à leur place. Donc vraiment, ça c'est une fonctionnalité de base, n'hésitez pas à implémenter, c'est fait très facile avec l'API Windows Phone. Vous pouvez très bien dire sur 3 jours, vous pouvez tester l'application et après la bloquer complètement.
Donc, ce qui nous différencie également de d'autres plateformes, cette fonctionnalité.
Oui. Enfin, oui. Les vignettes dynamiques, là c'est vraiment très différenciant. On l'a montré, c'est pas seulement un raccourci sur l'écran d'accueil, vous pouvez mettre du contenu. Donc c'est là où c'est important, c'est que vous pouvez donner envie à l'utilisateur de revenir dans votre application. Je pense notamment à une application de type actualité qui affiche les grands titres, l'actualité, la une. Ça va juste vous mettre une image et un titre, ça va vous donner réellement envie de revenir dans l'application. Donc si vous avez dans l'application des bannières de publicité, donc c'est au nombre d'impressions que vous êtes rémunéré. Donc plus l'utilisateur vient dans l'application, plus vous gagnez d'argent. Ben, on va essayer de l'attirer au maximum. La vignette fait partie de ces moyens. Vous avez aussi tout ce qui est notification push. Pareil pour l'actualité un petit peu chaude, ça peut être sympa de notifier l'utilisateur de cette façon-là. Un point qui paraît tout bête également, c'est soigner vos applications. Vraiment, l'utilisateur n'est pas un bêta-testeur, clairement. Le but, c'est de tester au maximum vos applications. N'hésitez pas à la prêter à vos amis avant de la publier. Testez. Faites attention à tous les alignements. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont assez anodines et qu'il ne faut pas hésiter justement à refaire une passe tout simplement dessus. Tester sur un vrai téléphone, David vous parlait d'émulateur, donc c'est très bien pour développer quand on n'a pas de téléphone, c'est bien pour débuter en développement. Par contre, en conditions réelles, sur un processeur ARM comme on a sur les téléphones, c'est pas forcément les mêmes performances. Donc là, c'est vraiment essentiel, avant de publier vos applications, testez-les sur de vrais téléphones. Ça, c'est primordial. Alors, une petite tips qui commence à venir de plus en plus dans les applications, c'est inciter intelligemment les utilisateurs à noter l'application. Donc quelqu'un qui aime votre application va la lancer plusieurs fois. Donc plutôt que de lui dire de noter l'application au premier lancement, alors qu'il ne s'est pas vraiment fait un avis, ou peut-être qu'il a un avis négatif, l'astuce, ça va être d'attendre qu'il revienne, mettons, 5 à 10 fois dans l'application, et au bout de 5 fois, on va lui dire, tiens, tu viens depuis plusieurs fois, donc peut-être que tu as envie de noter l'application. En tout cas, si tu l'apprécies, n'hésite pas à mettre un petit mot sur le store. Donc ça, c'est une façon un peu intelligente d'attirer les utilisateurs qui ont tendance à mettre des évaluations plutôt positives. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir maintenant dans beaucoup d'applications. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, c'est montrer que vous prenez soin de votre application, que vous êtes à l'écoute des utilisateurs en faisant des mises à jour régulières. Donc ça va montrer justement que vous faites des corrections de bugs, que vous êtes à l'écoute, que vous rajoutez des fonctionnalités, que l'application continue à vivre. Et le simple fait d'avoir une notification qui dit « Tiens, telle application a été mise à jour », c'est encore un nouveau point qui va vous dire « Tiens, cette application existe, j'avais installé, j'avais un peu oublié, du coup, je vais peut-être la relancer, il y a des nouveautés, c'est sympa ». Donc encore une fois, tout ça, c'est dans une logique de donner envie à l'utilisateur de rester sur vos applications, de les fidéliser. C'est ce qui ramène derrière de l'argent. On rappelle à cette thème. Publication sur le store.
Oui. Alors, aujourd'hui, pour publier sur le store, vous devez absolument vous rendre via le Dev Center. Le Dev Center vous propose pas mal de menus, y compris celui de soumettre une nouvelle application. Sur l'ensemble des informations de base, vous retrouverez des informations comme les informations de base de l'application, mais également le fichier source de l'application, évidemment, et des photos obligatoires qui accompagnent cette application, des textes, des mots-clés, et d'autres types de paramètres si vous voulez inclure de l'in-app purchase ou d'autres fonctionnalités comme la cartographie ou choisir des marchés spécifiques. Comment ça se passe pour la publication aujourd'hui? Il y a plusieurs modes de publication. Les plus importants sont le public et le privé. Ce sont deux modes de publication qui nécessiteront absolument une certification. C'est-à-dire que vous devrez soumettre votre application et elle devra être validée au préalable, que ce soit par des tests automatiques et également des tests manuels. La différence entre ces deux modes de publication est que le premier permettra de retrouver votre application via un moteur de recherche. Le deuxième vous permettra de proposer votre application que par un lien qui sera diffusé auprès de vos utilisateurs, partenaires, associés, etc. Il y a un outil qui est trop souvent oublié, qui est le Store Test Kit. Je nous invite aussi à régulièrement le tester. Il vous permettra de comprendre si votre application passera les premiers tests automatiques, tout simplement. Autre mode de publication, il y a un mode de publication bêta. Ce mode bêta a la particularité de ne pas avoir de publication de certification prérequise. Donc, pratique, aucune date d'expiration et également supporté jusqu'à 10 000 utilisateurs. Un dernier mode de publication qui est un peu moins connu, moins utilisé, c'est le mode de publication entreprise. Le mode de publication entreprise est un peu plus compliqué dans la mesure où il vous permettra de pouvoir déployer pour des partenaires, des associés, mais demande un peu plus d'efforts. Vous devrez obtenir certains certificats, créer une application spécifique, soumettre vos applications, que ce soit par des URL privées ou alors les transférer par mail avec les certificats.
Voilà, on sort vraiment du store, ouais. C'est notre store privé en entreprise avec la gestion de notre flotte mobile.
Voilà. Particulièrement. La gestion, justement, appartient aux entreprises, en fait. Voilà. Alors, pour démarrer son développement Windows Phone, à quel prix ?
Eh oui, combien ça coûte ?
C'est vrai que l'argent, c'est un sujet qui fâche beaucoup en France. Alors, débuter un développement, c'est gratuit. Non seulement gratuit, mais vous avez des outils gratuits qui vous permettent de développer votre application Windows Phone, à savoir Visual Studio Express édition Windows Phone. J'anticipe certaines questions. C'est quoi la différence avec les autres versions de Visual Studio ? Vous aurez quelques fonctionnalités en moins. Bon, on listera...
En gros, vous pouvez développer de base avec Visual Studio Express, c'est juste que vous avez des fonctionnalités un peu confortables que vous n'aurez pas sur Visual Express, comme l'ajout d'add-in, des petits raccourcis en moins.
Je n'ai pas tout faire à la main, en fait.
Voilà, c'est juste des fonctionnalités. C'est une version allégée, gratuite, forcément, donc moins productive. On va dire.
Moins productive, mais vous pouvez produire une application de A à Z sans aucun problème.
Sans problème.
Ensuite, vous aurez la possibilité de débloquer un téléphone gratuitement, toujours. Tout cela en utilisant AppStudio. Je ne sais pas si vous connaissez tous AppStudio. On en a parlé ce matin, c'est un programme qui vous permet de développer vos applications en ligne. Donc, programme créé par Microsoft qui vous accompagne. Vous aurez simplement à créer votre interface à l'aide de templates prédéfinis et utiliser vos sources de données. Voilà. Donc, pas besoin de compte développeur, toujours gratuit. Dans la limite, alors, il y a une petite limitation, c'est qu'il vous sera possible de déployer que deux applications que vous aurez créées sur ce téléphone. Voilà. Et si vous souhaitez aller plus loin dans le processus de publication, publié sur le store, il vous faudra, heureusement, un compte développeur. Alors, combien ça coûte tout cela ? Un compte développeur, aujourd'hui, c'est un prix trop faible. C'est 14 euros. C'est 14 euros si vous êtes individuel, donc développeur indépendant ou autre. Si vous êtes une entreprise, c'est un peu plus cher, 75 euros pour une licence renouvelable à l'année, 75 euros. Mais encore, vous avez un super bonus, c'est la possibilité de développer des applications Windows Store Apps pour le même prix. Donc, vous ne payez qu'une seule fois et vous aurez la possibilité de publier sur les deux stores, que ce soit celui Windows Phone ou alors le store des Windows Store.
Deux en un, quoi.
Deux en un. C'est un très beau cadeau de Microsoft.
Bah justement, Windows Store Apps, on va dire deux, trois petits mots dessus, donc assez rapidement. Donc, il faut savoir qu'on peut mutualiser le développement entre Windows Phone et Windows 8, puisqu'en fait, on peut retrouver les mêmes langages, en l'occurrence, C Sharp XML. Pour faire du partage de code, il y a différents moyens. On peut faire ce qu'on appelle du lien de code dans différents projets. On peut utiliser ce qu'on appelle la Portable Class Library. Vous avez différentes sessions durant les Tech Days qui en parlent de long, en large et en travers. Malheureusement, on n'aura pas le temps. En très bref, on peut partager du code, en tout cas au moins la partie business, assez facilement. On a pareil une API qui est commune et qui tend à converger. Donc ça, c'est ce qui est plutôt positif, c'est que... on espère que dans un avenir proche, on aura à coder une seule fois, on pourra déployer à la fois sur Windows 8 et Windows Phone. Et pour aider un petit peu dans cette approche, on a des patterns qui existent depuis assez longtemps maintenant. On a le modèle ViewModel, donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus en détail ce pattern, à quoi sert ce pattern architectural. C'est un grand classique en développement XAML. Ça vous permet justement de favoriser le partage de code entre les deux plateformes. Donc c'est un premier point d'approche pour mutualiser. En général, vous aurez juste à adapter les vues, qui finalement, c'est pas complètement anodin, parce que vous avez un téléphone qui est plutôt tenu verticalement et une tablette qui est plutôt tenue en mode paysage. Donc, c'est deux formats très différents, deux gabarits très différents. Donc, c'est pas anodin qu'on modifie comme ça juste les vues finalement. On partage par contre tout le code sous-jacent. Ça, c'est plutôt positif. Et enfin.
En résumé.
En résumé, on va essayer de conclure brièvement. Un petit récapitulatif des liens essentiels. Dev Center, je pense qu'on en a assez parlé, vous l'avez tous noté, en tout cas j'espère. Pour développer, pour débuter son développement, c'est quand même indispensable. L'accélérateur Windows, donc ça c'est un programme qui a été lancé par Microsoft, ce qui permet d'accompagner tous ceux qui veulent développer des applications Windows, Windows Phone, ou même Windows sur Windows Azure. Donc c'est de l'accompagnement, c'est de la visibilité, par exemple sur le store, vous pouvez être poussé en une du store pour ajouter encore plus de téléchargements. Vous avez des tokens gratuits, donc c'est même plus 14 euros, c'est carrément gratuit. Vous avez de l'accompagnement avec du support, des interlocuteurs privilégiés à qui vous pouvez poser vos questions techniques et avancer comme ça sereinement sur vos applications. Exemple de code, donc c'est tout plein d'exemples de code sur tout, à peu près toutes les fonctionnalités basiques de Windows Phone. Et le training kick, donc ça c'est pareil, c'est un pointeur assez sympathique quand vous débutez, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de labs, d'exercices qui vont vous permettre de créer une application de A à Z, en passant un peu par tous les concepts de Windows Phone. Donc en gros, si vous faites en fin de training kick, normalement vous avez à peu près vu toutes les notions qu'il est possible de voir sur du Windows Phone. C'est un outil assez sympa. Je laisse 5 secondes encore, c'est bon. On vous fournira les slides de toute façon un peu plus tard. En conclusion ?
Alors, on a vu vraiment que le Microsoft, ils ont mis l'essentiel des outils à notre disposition, des outils, les ressources. Cyril les a rappelés au travers des liens. Vraiment, on remarque qu'aujourd'hui, le développement Windows Phone est aisé, où tout est mis en œuvre pour qu'il soit le plus aisé, avec beaucoup d'experts à votre disposition, en plus des ressources qui vous permettent de créer des applications d'excellence. Donc le développement, il se fait vraiment tout en douceur, en fait.
On a beaucoup de fonctionnalités, en 45 minutes c'est impossible de toutes les voir, on a essayé de focaliser sur les principales, celles qui se démarquent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Vraiment soyez curieux, n'hésitez pas, il y a une documentation qui est assez fournie, qui vous présente un petit peu tout ça. Naviguez sur vos téléphones, inspirez-vous de ce qui est fait ailleurs, vous avez vraiment du choix, beaucoup de choses riches à votre disposition, donc allez-y, foncez, c'est sympa.
Si vous aviez des doutes sur l'intérêt apporté à la plateforme, j'espère que vous n'en avez plus. Puisque on voit vraiment que le marché il grandit, les ventes de téléphones explosent. Microsoft a fait en sorte qu'une large gamme de téléphones puisse être construite pour cibler le maximum d'utilisateurs. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, tous les budgets, et c'est un atout majeur justement pour la plateforme. La plateforme, elle grandit, elle évolue, y compris les parts de marché.
Les parts de marché qui ont d'ailleurs doublé en l'espace d'un an, donc c'est vraiment une progression qui est extrêmement, extrêmement grande. Et enfin, la convergence avec Windows 8, donc j'en ai touché deux petits mots il y a deux minutes. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a du développement sur Windows Phone qui potentiellement peut être facilement mutualisé sur du Windows 8. Encore une fois, on peut espérer que, en tout cas, Microsoft met les moyens en œuvre pour faire converger ces plateformes. Windows Phone 8, c'est basé sur Windows 8, donc vraiment, on a des API qui sont aujourd'hui communes, qui malheureusement ne sont pas matchées à 100%. Ça, on peut espérer que ce soit le cas prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer. C'est une belle plateforme avec un bel écosystème.
On vous remercie beaucoup d'avoir
assisté à
cette session.